L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Abar patriarca.
Masamanaye, aumaye.
Bonjour tous et bienvenue dans l'actuel, votre rendez-vous féministe sur Radio Larzac. Salut Maggie.
Oui, salut Sophia, bonjour à tout le monde, bienvenue.
Tu vas bien ?
Je vais bien, ça va, pour un mois de décembre.
Et oui, on est encore en décembre au moment où on enregistre cette émission, même si au moment où vous l'écoutez, on sera en janvier, donc bonne année à vous. Et puis salut Hugo et Nicolas et Noan aussi à la technique. Donc, pour cette émission, on continue d'explorer le thème du soin qu'on a commencé la dernière fois sous l'angle de l'accès aux soins. Cette fois-ci, on a choisi de parler des violences gynécologiques et obstétricales. C'est un sujet qui nous a paru assez évident quand on s'est intéressé aux soins et quand on s'est dit qu'on voulait faire des émissions sur ce sujet.
Oui, c'est ça. Dans cette émission, on a échangé avec Daniela Abadi, qui est sage-femme et autrice d'une conférence gesticulée intitulée « Corps en colère » sur cette question justement des violences gynécologiques. Nous allons aussi vous faire écouter des extraits d'émissions et de documentaires sur ce sujet. Puis à la fin d'émission, nous écoutons Ariane, médecin généraliste, qui propose avec l'association Titane à Valence un stage d'autodéfense féministe en consultation médicale.
Tout à fait. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on tient à préciser que cette émission traite de quelque chose qui pourrait heurter la sensibilité de certaines auditrices. Donc si vous avez été victime de violences gynécologiques ou que cela vous évoque des souvenirs traumatisants, eh bien on vous conseille pour cette fois-ci d'éteindre votre poste de radio pour une petite heure et de prendre soin de vous.
Oui, c'est ça, prenez soin de vous. Nous allons commencer par la revue de presse. Hein. Sophia,
tout à fait.
La parole.
C'est parti.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
I worry the sun.
On commence cette revue de presse avec une nouvelle d'Italie qui a été rapportée dans la newsletter de La Déferlante, la revue des révolutions féministes. Depuis le 28 novembre et jusqu'au 22 décembre, s'est tenu au tribunal de Padoue, dans le nord-est de l'Italie, le procès de 33 mères lesbiennes qui attaquent l'État pour ne pas se voir effacer des actes de naissance de leurs enfants. Leur combat a commencé en juin dernier lorsque le parquet de Padoue a contesté les actes de naissance de tous les enfants de couples lesbiens enregistrés par la ville depuis 2017. C'est une décision qui faisait suite à une circulaire du ministère de l'Intérieur de janvier de 2023, ordonnant aux mères de ne plus inscrire le deuxième parent sur les actes de naissance des familles homoparentales. C'est le maire donc qui, seules les mères qui ont accouché peuvent être reconnues. Concrètement, pour un couple, cela signifie que celle qui n'a pas accouché ne peut pas aller chercher son enfant à l'école, par exemple, ou l'amener chez le médecin sans l'autorisation de sa conjointe. Et le pire, c'est qu'en cas de décès de la mère ayant porté l'enfant, eh bien, l'enfant sera considéré comme orphelin. Alors, en Italie, la procréation médicalement assistée est autorisée uniquement aux couples hétérosexuels mariés depuis au moins de 3 ans, mais comme la PMA est interdite donc aux couples lesbiens sur le territoire national, il n'y a aucune loi qui garantit la reconnaissance de ces enfants. Jusqu'ici, donc, il y avait un flux, un vide juridique, mais les mairies acceptaient souvent d'inscrire le nom de la deuxième mère sur les actes de naissance jusqu'à cette circulaire voulue donc par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. Donc la décision du tribunal de Padoue est attendue pour ce mois de janvier, c'est une affaire à suivre. En même temps, ce qui est quand même assez drôle, c'est que le pape a reconnu les couples du même sexe presque au même moment. Donc voilà, c'est un contraste assez différent, assez saisissant sur, la même, sur le même territoire. En tout cas, après, on se déplace à Oslo, où le 10 décembre dernier, Narges Mohammadi s'est vue décerner le prix Nobel pour la paix. Elle est journaliste et militante pour les droits humains en Iran, mais elle est emprisonnée dans la prison d'Evin à Téhéran. Et donc, elle n'a pas pu se rendre à Oslo, elle n'a pas été autorisée à sortir de prison pour recevoir le prix en main propre. Elle est incarcérée depuis 2022 et après sa dernière entrée en prison, après de multiples allers-retours et condamnations pour avoir osé s'opposer au régime, c'est Libération qui a écrit un article sur elle à cette occasion et qui a pu lui faire passer des questions jusqu'à la prison. Donc vous pouvez retrouver son interview en ligne sur le site de Libération. Elle revient sur une vie de combat, sur pourquoi elle a voulu rester en Iran, dans son pays, sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a éclaté suite à l'assassinat par la police des mœurs iraniennes en septembre 2022 de Mahsa Zina Amini et de Armita Garavand, qui est morte elle aussi après une interpellation de la police des mœurs début octobre 2023. Ensuite, on continue de parler de droits reproductifs, puisque la dernière émission, si vous vous souvenez, on vous avait parlé de Kate Cox, cette Américaine de 31 ans qui avait attaqué son état, le Texas, en justice pour demander une IVG à cause de sa grossesse qui était à risque et qui posait beaucoup de soucis pour sa santé et pour sa fertilité future. Donc on vous avait promis des mises à jour et les voici qu'on a trouvées sur le site de l'Humanité. La Cour suprême du Texas a annulé sa décision qui autorisait Kate Cox à avorter. Sa plainte aurait pu aboutir à une jurisprudence favorable aux droits reproductifs dans ce pays, comme le rappelle l'Humanité. Mais Kate Cox donc a dû quitter son état pour avorter en urgence dans un autre état, puisque cette décision n'a pas été acceptée. Donc, on revient pour finir en France et pas très loin d'ici avec une bonne nouvelle et plutôt locale donc, puisque les femmes de ménage de la société ONE au CHU de Montpellier ont obtenu une partielle victoire après 78 jours de grève qui ont pris fin le 1er décembre. Les 40 salariés grévistes d'ONE réclamaient une hausse de salaire de 5% et une prime de fin d'année, mais surtout une meilleure reconnaissance de leur métier et de meilleures conditions de travail. Je les cite, on se lève tous les jours à 4h30 du mat, on enchaîne les bureaux à nettoyer dans les hôpitaux sans pouvoir prendre de pause, tout ça pour 900 euros par mois. C'est une déclaration d'une gréviste à Reporter. Reporter qui rappelle aussi que les professionnels du nettoyage sont notamment exposés via les produits d'entretien à 7 agents cancérogènes en moyenne. Ce sont des métiers pénibles et usants qui ne sont pas reconnus et qui sont souvent méprisés car associés à des tâches domestiques et donc majoritairement féminine encore. C'est aussi la faute au système de sous-traitance, toute cette pénibilité de ces métiers, comme le reporte Jamil, qui est représentant de la CGT, toujours dans une interview à Reporter. Donc dans cette grève, il y a eu des négociations avec ONE et les agentes d'entretien ont obtenu une victoire importante concernant leurs conditions de travail. En fait, elles ne sont plus obligées de scanner un code à chaque bureau qu'elles nettoient. Désormais, la traçabilité se fera non pas par pièce mais par service et c'est un gain de temps considérable pour les femmes de ménage et aussi une meilleure reconnaissance. Et l'autre avancée, c'est une prime de fin d'année qui s'élève à 650 euros. Pour un temps plein. Ce n'est pas exactement le 13e mois que les grévistes avaient réclamé, mais c'était un début prometteur pour la représentante syndicale interviewée par Reporter, qui déclare aussi « on peut continuer à lutter pour obtenir une prime pérenne qui revient tous les ans comme le 3e mois ». Donc c'est une lutte qui va sûrement continuer et c'est notre émission aussi qui va continuer puisque c'est la fin de la revue de presse. Mama, Donc pour introduire le sujet du jour, on va parler donc des violences gynécologiques. Et voilà, je voulais juste faire un petit rappel de ce concept qui a été cité par un rapport du Haut Conseil de l'égalité rendu en 2018 et qui définit les violences gynécologiques comme des actes sexistes les plus graves qui peuvent se produire dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical des femmes. Donc voilà, c'est un sujet qui est présent en tout cas dans les rapports du gouvernement.
Oui, du coup, pour continuer le sujet du jour sur les violences gynécologiques et obstétricales, aujourd'hui, les femmes dénoncent et se réunissent, comme le groupe contre les violences gynécologiques près de Manosque. C'est né d'un groupe de femmes qui se sont rendues compte qu'elles subissaient toutes des formes de violences de la part du même médecin. Elles ont décidé de mettre par écrit et par témoignage. Certaines d'entre elles ont témoigné aussi au micro de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, épisode 6, le gynécologue et la sorcière.
Oui, donc on va vous faire écouter deux extraits de ce podcast.
On a eu ensuite une grossesse difficile parce qu'il y a eu des complications. Alors je ne sais pas du tout si c'est lié à ça ou si c'était de toute façon compliqué pour cet enfant. Non, à 7 mois, j'ai été hospitalisée aux grossesses à risque à Marseille. J'ai trouvé ça assez inhumain. On a un peu l'impression d'être à l'usine des mères les plus difficiles. Et au lieu d'être plutôt rassurée par l'équipe, moi j'ai été assez malmenée. On m'a césarisée à 34 semaines, après avoir attendu quand même 4h30 dans un couloir, sous un drap, en ayant froid, en sachant pas si mon enfant allait naître avec des complications ou pas, dans un état de tension pas possible. Et où le gynéco me fait une péridurale pas suffisamment forte, donc je lui dis que je sens tout ce qu'il fait en moi, que je sens ses mains dans mon ventre. Moi, à un moment, par panique, je lui dis « Arrêtez tout, docteur, arrêtez tout, c'est horrible, je vous sens dans mon ventre, c'est affreux. » Il me dit « Si j'arrête tout, là, je vous laisse avec les intestins sur les genoux. » Et ensuite, il me dit « Puis arrêtez de vous énerver, là, parce qu'il y a la tension qui monte, c'est pas bon. Bon, écoutez, là, on est vendredi soir, moi, j'ai un avion à prendre, hein. Je pars en week-end, donc ce serait bien que ça aille un peu plus vite. Calmez-vous, parce que vous nous aidez pas. » Bon, à partir de là, je pense qu'ils m'ont donné de la morphine ou je sais pas quoi, je me souviens plus très bien, ils ont dû me shooter pour que j'arrête de réagir. Donc moi, je veux surtout éviter à d'autres femmes d'en passer par là et de se laisser faire et qu'on se sente plus informée avant de ce qui est acceptable ou pas et qu'on soit prête à pas se laisser manipuler par le corps médical, quoi. C'est voilà, ne pas se laisser infantiliser, réagir, poser des questions et se sentir dans son droit quand on le fait.
Alors moi, je savais que je devais subir une opération chirurgicale pour un énorme kyste de 15 cm de diamètre. Et j'avais rencontré un chirurgien qui m'a traité comme un chien. Impossible de lui poser des questions. Il répond de façon extrêmement tranchante, autoritaire. On n'existe pas. Je me souviens plus particulièrement qu'au moment d'un toucher pour aller vérifier ce kyste absolument énorme, je lui ai demandé « Est-ce que vous pourriez mesurer le kyste ?» Donc, docteur, pourriez-vous me dire quelle est la dimension du kyste ? Foutez-moi la pelle, laissez-moi travailler tranquille, je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de vous. Sur ce ton-là. Ensuite, quand je suis revenue devant son bureau, je lui ai demandé si on pouvait sauver un ovaire dans cette situation-là. Il m'a dit « Certainement pas, c'est impossible ». C'était vrai d'ailleurs, mais on ne dit pas les choses comme ça. Et puis, il ajoute, et puis on va retirer l'autre dans la foulée. Ah, dans la foulée, ça veut dire quoi dans la foulée? Pourquoi pas la rate, l'estomac et, hein, ok? Parce que, alors je lui dis, mais pourquoi? Puisqu'il est sain, l'autre. Eh bien, parce qu'à votre âge, vous n'avez plus besoin, il y a des risques, donc on vous le retire dans la foulée. Quand on sort de là, on est complètement tremblotant, on se sent diminué. Objectivé, c'est terrible. Et le médecin généraliste qui me suivait, quand je lui ai fait part par la suite de comment ça s'était passé, la maltraitance verbale, physique, la façon dont il fait l'auscultation qui est vraiment, vraiment terrible, je lui en ai fait part, il m'a dit « et alors ?» Alors je lui ai dit « oui, bah, et alors ? Moi je ne peux pas envisager d'être opérée par cet homme ». C'est un très bon médecin. Je dis, non, c'est pas un très bon médecin. Un très bon médecin, c'est quelqu'un qui me respecte, qui me maltraite pas, qui me fait pas du mal à l'auscultation, au toucher vaginal, etc. J'ai été déçue parce que j'ai encore pas été comprise non plus par lui.
Si bien, elle peut changer, c'est ok.
Les récits des femmes se sont accumulés au fil du temps, et puis d'autres récits encore concernant d'autres médecins dans le même hôpital, à Manosque. Le groupe s'est donc élargi. Toutes ont décidé de poser leurs témoignages par écrit et réfléchissent à des moyens d'action.
Voilà, donc c'était un extrait de Un podcast à soi, Le gynécologue et la sorcière, l'épisode 6. Si vous voulez l'écouter en entier, c'est sur Arte Radio. Voilà, c'était des témoignages assez durs à entendre.
Oui, c'est sûr que c'est des sujets sensibles et merci de leur parole.
Tout à fait. Eh bien, nous aussi, on a pu échanger sur ces sujets avec une sage-femme qui s'appelle Daniela Abadi. Elle a exercé son métier pendant plus de 25 ans. Elle a aussi exercé dans l'aide humanitaire. Et ensuite, elle a voulu transmettre tout son vécu dans une conférence gesticulée qui s'appelle Corps en colère et qui donc donne la parole au témoignage des femmes qu'elle a rencontrées. Et donc, on l'écoute. Bonjour Daniela.
Bonjour. Bonjour Sophia.
Alors merci de prendre ce temps avec nous. On va parler de ta conférence gesticulée Corps en colère qui porte sur les violences gynécologiques et obstétricales. Et tu as travaillé en effet en tant que sage-femme et puis dans l'aide humanitaire aussi dans plus de 20 pays du monde. Donc pour commencer, qu'est-ce que tu as pu observer sur le terrain d'actes médicaux qui relèvent de violences gynécologiques ?
C'est une très très large question parce que les violences gynécologiques, ça va de gynéco-obstétricales, ça va juste des propos qui peuvent être déplacés et dont la plupart des femmes ne relèvent même pas qu'il s'agit d'une violence, d'une maltraitance. Qui peut être « pourquoi vous voulez une IVG ? Vous allez le regretter ?» Ça peut être « tu n'as pas crié quand tu le faisais, ne crie pas maintenant », etc. Donc toute une série d'injonctions, d'actes, de propos, de paroles, et qui vont s'étendre jusqu'à des gestes faits sans consentement. Donc ça, c'est une des clés quand même de... un peu à partir de laquelle on commence à parler de maltraitance ou de violence, c'est quand on n'est pas ni informé, ni on n'a pas demandé la permission. Hein, donc on va s'approprier du corps de la femme et surtout de ses parties quand même intimes et sexuelles d'une façon totalement abusive, avec insérant un spéculum sans l'annoncer, sans demander l'avis, ne pas respecter la physiologie quand il s'agit de l'accouchement et donc faire des interventions qui vont souvent amener à d'autres interventions et qui peuvent devenir violentes. Des épisiotomies, donc quand on va couper au niveau du périnée pour agrandir un petit peu l'espace de la sortie de l'enfant de façon souvent innécessaire et encore là non consentie, suturer sans anesthésie, faire ce qu'on appelle l'expression abdominale, c'est-à-dire appuyer sur le ventre de la femme pour hâter la sortie de l'enfant, et qui est un geste totalement interdit par l'autorité de santé et très déconseillé au niveau international, mondial, parce qu'il est très dangereux. La liste est longue, mais je pense qu'il s'agit surtout de dire que c'est systémique, que ça existe partout, que c'est un modèle médical hégémonique qui considère le corps de la femme comme lui appartenant et que donc c'est quelque chose qui vient de cette culture patriarcale qui veut contrôler notre sexualité, notre reproduction et notre façon d'enfanter. Et c'est à partir de là que se crée toute cette maltraitance qui peut aller des choses dont on se demande est-ce que c'était vraiment si grave que ça, jusqu'à des viols, c'est-à-dire des viols, ce sont des pénétrations sans consentement.
Oui, et tu as évoqué ce mot donc, systémique que je trouve assez important pour décrire ce phénomène. À ton avis, alors tout tu as fait. En partie répondu, mais comment on en arrive jusque-là ? Est-ce que c'est lié aussi au fait que les femmes ont été exclues des professions médicales et aussi à une certaine autorité qui règne dans un cabinet médical où finalement ben, on se sent toujours entre les mains d'un médecin ou...
Donc il y a plusieurs facteurs, si tu veux. Il y a des facteurs qu'on peut décrire comme plus historiques et systémiques et qui ont effectivement trait au fait que j'en parle dans la conférence, comment les femmes, les sages-femmes, les femmes sages qui étaient les guérisseuses, qui étaient celles qui s'occupaient dans, à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, du corps des femmes, qui transmettaient un savoir qui se transmettait de génération en génération, hein, de femme à femme, et qui, elle, prenait soin bah, de la naissance à la mort du corps des femmes, ce qui donnait quand même aux femmes un certain pouvoir, une autonomie reproductive, et comment bah, ces femmes-là, à partir du moment où le développement du capitalisme a besoin d'une main-d'œuvre importante, et que les sages-femmes, c'était aussi celles qui connaissaient les herbes abortives et tout ça, et que du coup, ça a été pénalisé parce qu'on avait besoin... l'avortement devient extrêmement pénalisé. On va les brûler comme des sorcières, hein, on va les accuser de pactiser avec le diable, etc. Et elles vont commencer à être déplacées totalement de ce rôle auprès des femmes, avec le développement de la médecine, de la chirurgie, etc. L'homme va prendre plus en plus de pouvoir sur le corps des femmes. Donc ça, c'est un aspect, on va dire, un peu historique que je développe brièvement pendant la conférence. Et ensuite, effectivement, le système médical en général, et en particulier en obstétrique et gynécologie, parce que ça touche à un aspect très intime de la vie des femmes, mais comment le corps médical... la profession, le savoir médical est extrêmement hiérarchisé, extrêmement vertical et aussi discriminant avec une discrimination de genre qui est claire. Et donc, avec tout ça, on arrive à une situation où une femme qui se retrouve... face à une blouse blanche et on arrive dans un cabinet où même avant de nous poser des questions, on va nous dire déshabillez-vous, comme ça on gagne du temps. Et donc on se retrouve dans une position d'extrême vulnérabilité, jambes ouvertes, sexe exposé, face aux yeux d'une praticienne ou d'une praticienne. Quand je dis praticien ou praticienne, je tiens à le préciser parce que ce n'est absolument pas une question du sexe du praticien, mais bien d'un système de domination patriarcale qui fait que des femmes praticiens intériorisent totalement aussi ce pouvoir du médical, ce savoir du médical, et que finalement, ben, il y a aussi bien des sages-femmes que des femmes gynéco-obstétriciennes qui, des fois, font mieux que les hommes, y compris dans la maltraitance des autres femmes.
Oui, et tu en as un peu parlé donc de ce qu'on retrouve dans ta conférence gesticulée. Tu me disais aussi en off que voilà, après beaucoup d'années passées sur le terrain, tu as eu envie de transmettre tout ce vécu et cette expérience. Comment donc t'es arrivé à la forme de la conférence gesticulée ? Comment tu l'as construite ?
La conférence gesticulée, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans, de façon totalement fortuite, où j'étais dans un moment de transition justement de ma vie en termes de voilà, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? J'ai énormément travaillé, je commence à mettre un peu un frein à l'activité parce que j'ai envie de prendre un peu de recul. J'ai beaucoup écrit, j'ai écrit pendant des années de toutes mes expériences de sage-femme dans le monde, etc. Et je me disais, c'est ma responsabilité en ce moment de transmettre un peu tout ça. Et je ne savais pas trop quoi en faire, un livre, je ne suis pas écrivain. Voilà, j'étais dans cet questionnement. Et puis des amis qui sont dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, parce que la conférence gesticulée, c'est une forme de transmission qui rentre dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, m'ont parlé de cette forme-là. Et donc c'est une forme, une conférence gesticulée, c'est une sorte de monologue, de récit où on prend un sujet qui nous traverse, qui nous tient à cœur, qu'on a vécu, et puis on va le tisser dans quelque chose qu'on appelle, dans le jargon de la conférence gesticulée, un Scooby-Doo, c'est-à-dire trois fils qui s'entrecroisent. Un, c'est d'où on parle, et le vécu personnel avec des anecdotes et avec une trajectoire. Ensuite, on a un deuxième fil qui va être un fil un peu plus théorique, avec une recherche bibliographique, une recherche historique, des statistiques, etc. Et un troisième fil qui est un petit peu la mise en scène, une petite mise en scène, on va dire, avec quelques accessoires, des objets qui nous permettent de faire passer le message. Et donc, c'est une forme qui part de l'émotion, du vécu, qui peut être faite avec beaucoup d'humour, et qui en même temps mêle l'intime et le politique, et qui va aider à dévoiler, à dénoncer une domination dans un domaine, quel qu'il soit, souvent professionnel, une domination dans le monde du travail, une domination patriarcale, une domination de toutes sortes, raciale, etc. J'ai commencé le processus, je me suis inscrite, donc c'est des associations d'éducation populaire qui proposent la formation. J'ai fait la formation pendant 6 mois. Et dans cette formation, on écrit petit à petit son texte, on le réécrit, on le travaille en groupe, on commence à le jouer, on commence à jouer des petits bouts avec le feedback des autres collègues qui sont là, qui eux font leur propre conférence avec leur sujet. Et puis petit à petit, on construit ce travail d'écriture et en même temps un travail un petit peu de jeu, on va dire. Et donc j'ai fini de faire ma conférence, ma formation en juillet 2022. Je l'ai présentée une première fois et puis à partir de là, ça n'arrête pas. Là, je l'ai joué 14 fois, je pense, en France et puis aussi en Espagne, parce que moi je suis donc argentine de naissance et j'ai vécu 20 et quelques années en Argentine. J'étais réfugiée politique en France à la fin des années 70. Donc je l'ai traduite à l'espagnol, je l'ai adaptée un petit peu dans le contexte espagnol et je l'ai jouée déjà 4 fois en Espagne. Et là, je suis, donc en ce moment qu'on parle, je suis chez moi en Argentine, où j'ai plein de contacts pour voir si j'organise une tournée l'année prochaine pour le jouer ici, parce que le sujet est aussi très, très, très d'actualité. Et puis le mouvement féministe en Argentine est très puissant.
On voit aussi que la parole se libère en France, avec l'hashtag paye ton gynéco, ça a commencé vraiment à être d'actualité. Peut-être avant de conclure, j'imagine que ton objectif avec ta conférence, c'est aussi de donner des outils, en tout cas de sensibiliser les femmes et les personnes à ce type de violence. Donc, quelles ressources on peut mobiliser face à une situation de potentielle violence dans un cabinet médical ou à quoi on doit faire attention, par exemple ?
Comme tu dis, moi, mon but, c'est de libérer la parole, que les femmes puissent prendre conscience. Et je pense que, de façon générale, lutter contre ces violences gynéco-obstétricales passe en dernier recours par l'appropriation du corps des femmes, que chaque femme puisse se réapproprier de son corps. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a des outils. Moi, je propose des ateliers après les conférences où on va travailler en petits groupes, soit des expériences vécues qui ont été traumatiques, soit justement les ressources. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment on se fait accompagner lors d'une consultation gynéco par une copine ? Comment on peut dire non ? Comment on peut connaître mieux son corps ? Je propose des séances d'auto-examen gynéco entre les groupes de femmes que je forme après la conférence. C'est cette prise de conscience-là, c'est de se dire il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas un seul examen qui est obligatoire. C'est notre corps, on a le droit de dire non. C'est complexe, et j'entends bien qu'on est dans cette position-là pas par hasard, et que s'opposer au pouvoir médical, c'est pas quelque chose de léger, mais je pense que ça passe par ça, ça passe par des temps où les femmes puissent se réapproprier leur corps, connaître mieux leurs droits. Je propose aussi une bibliographie qui est assez importante, où j'inclus des des classiques comme Notre corps nous-mêmes, surtout la version, nouvelle version française qui a été faite par le collectif, qui est, je trouve, une bible pour les femmes, et d'autres outils, voilà, qui existent aujourd'hui et qui peuvent faire avancer en même temps qu'on prend conscience du phénomène et que déjà on se dit c'est pas normal. Je ne suis pas obligée de subir des choses que je n'ai pas envie de subir. Je ne dis pas que c'est facile, c'est long, ça va prendre du temps, mais voilà, c'est un petit travail de fourmi où je crois qu'on avance, on avance petit à petit.
Merci beaucoup Daniela. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?
Non, je vous invite peut-être à visiter mon Instagram, donc Daniela Abadi Femme Sage, où vous allez avoir un petit peu des dates où je propose la conférence dans différentes régions de France. Et là, vous pouvez voir quand je suis dans votre région, quand je suis dans un coin, si vous avez envie de vous approcher, de venir voir la conférence ou d'en parler autour de vous. Et puis vous dire qu'on va y arriver. On va y arriver et puis il faut en parler autour de soi. Beaucoup de femmes pensent que ça ne les concerne pas. Et je pense qu'il y a un aspect un peu défensif et c'est normal parce qu'on n'a pas envie de se sentir qu'on a été victime de quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Mais voilà, il faut en parler et il faut arriver à ce qu'ensemble on puisse faire changer les choses de notre côté. Et puis évidemment, à l'intérieur des institutions médicales, etc., il y aura des changements à faire. Mais ça ne va pas être d'en haut que ça va venir, mais de nous, comme tous les droits que nous avons acquis.
Bien sûr, et surtout se rappeler que les droits, il faut toujours un peu lutter pour les garder. Donc effectivement,
voilà.
Merci
beaucoup.
Il faut
se battre, ouais. Je t'en prie. Merci, merci à toi et merci à l'actuel.
Donc c'était l'interview de Daniela Abadi qui a créé la conférence gesticulée Corps en colère. On la remercie pour ce témoignage.
Oui, tout à fait. Merci à elle. Oui. Et on espère peut-être l'inviter ici
voilà,
un jour.
Dans l'Aveyron, à Millau. Justement, elle parlait des droits. Je voulais rappeler la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui proclame que le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. D'ailleurs, à ce propos, dans le documentaire de Nina Faure, « Paye pas ton gynéco », on voit une manifestation contre les violences gynécologiques. Et pour cela, on vous fait écouter un extrait pour vous rappeler les droits, vos droits, en consultation gynécologique.
Aucune palpation mammaire ne doit être effectuée avant l'âge de 25 ans. La prescription de pilules contraceptives n'exige pas d'examen gynécologique. Les femmes exigent une information préalable et le recueil de leur consentement avant toute introduction de doigts ou d'objets dans leur vagin. Toute pénétration sexuelle par surprise tombe dans la définition du viol.
L'homme de gynéco avec qui je parle de cette question du consentement, je me rends compte à quel point ils ne comprennent rien au consentement. C'est une notion, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est un papier à faire signer par la secrétaire. Encore il y a deux jours, je discutais avec une autre gynéco, elle me dit « Bah non, on ne va pas demander le consentement, on n'a aucune preuve qu'on l'a demandé, donc on ne demande pas ». Je dis, mais il y a une différence entre le consentement et la preuve du consentement, c'est deux choses différentes en droit. Et c'est quoi le consentement? C'est demander l'avis de la femme avant tout acte médical. Donc vous introduire un spéculum dans votre vagin pour déterminer s'il y a ceci, cela. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça? Oui, non. Si la femme dit, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai déjà eu des douleurs, ceci, cela, on cherche une alternative. Mais sinon, voilà, et c'est juste ça, ça prend 3 secondes de demander le consentement. Mais c'est pas du tout intégré dans les pratiques. Des gynécologues qui me disent « Oui, quand la femme débarque dans mon cabinet, elle sait bien ce qui va lui arriver. » Quand je vais lui demander. Enfin, il y a vraiment une notion qui n'est pas du tout maîtrisée par la profession. Et ça, je vois de façon généralisée chez eux.
Voilà, c'était un extrait du documentaire « Paye pas ton gynéco » de Nina Faure que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube. Et ben maintenant, c'est l'heure d'une pause musicale dans cette émission. On a choisi un morceau de Barbara Weldens qui s'appelle À mes flancs. C'est toi, voilà, Maggie, qui m'en a parlé. Et on va l'écouter.
À mes flancs, sans savoir, j'ai des hameçons qui chopent des morceaux du passé. Et je traîne mes lignes, mes harpons, mes crochets. Et je traîne mes regrets. À mes flancs s'accumulent encore bien frétillant les choix que je n'ai pas fait. Les photos, les cahiers, les amours, les enfants, les vies que j'ai rêvées. À mes flancs, je suis flanqué de toute la panoplie des années. Ça m'angoisse, je passe plus dans les portes des bistrots sans forcer les côtés qui dépassent. À mes flancs, lorsque je me retourne, ça veut plus, ça peut plus, ça suit plus. Et ça me taille une culotte de cheval en forme de regret. Et c'est laid. J'ai l'encyclopédie en 80 volumes des horreurs que j'ai bavées. J'ai le décompte des fois où j'ai dit que j'étais nul, où je me suis pardonné. Il y a même un sudoku que j'ai jamais fini parce que j'arrivais plus. J'ai des casseroles au cul qui font tellement de bruit quand j'avance. J'avance plus. J'ai un monstre qui fume. J'ai une loupe qui dévore le monstre qui fume. J'ai déjà quelques morts. J'ai des plumes qui m'échappent. Des passions qui s'endorment. Des envies toujours inassouvies. J'ai des femmes meurtries en pagaille qui sont toutes moi, qui me sortent des yeux, qui me lâchent plus les entrailles. J'ai des hommes blessés qui me restent à gripper, qui supplient que j'arrête de les aimer. J'ai des orgasmes bides qui me le laissent vide et avide et béant. J'ai du sang circulant tous les mois s'écoulant à mes flancs recyclés, recrachés. À mes flancs, j'ai un cri poussé comme un esclave des langues déjà inventées. À mes flancs, je trimballe des pensées empruntées, triomphant, puis jetées. J'ai un rêve, mais ça c'est moi qui le tiens. Je le lâche pas, je le lâche pas. Ça doit vouloir dire ça. Vivre, j'en sais rien, ça fait peur. Mais je lâche rien. À mes flancs, j'ai un rêve, mais ça c'est moi qui le tiens. Je lâche rien, je lâche rien. Ça doit vouloir dire ça. Vivre, j'en sais rien, ça fait peur. Mais je lâche rien.
Waouh, la belle voix de Barbara Weldens.
Oui, très belle.
Oui, très belle.
Merci pour cette découverte.
De retour dans l'actuel pour cette émission consacrée aux violences gynécologiques. Avec Sofian, on voulait vous partager un extrait de la BD Le cœur des femmes de Aude Mermilliode, tiré du livre de Martin Winkler qui porte le même titre.
C'est l'histoire de Jean, une jeune interne dans un service gynécologique qui est en stage avec un médecin, le docteur Karma, qui a des pratiques bienveillantes et qui privilégie l'écoute à la technique quand il reçoit ses patientes. Il tente de transmettre sa pratique à Jean alors qu'elle, elle est plutôt restée sur des méthodes très académiques et sur une attitude autoritaire et méprisante qui est voilà, prônée par la plupart des médecins.
À un moment, le docteur Karma lui montre une position d'examen gynécologique plus confortable pour les patientes qui s'appelle « en chien de fusil ».
C'est une position en décubitus latéral gauche. Au lieu que la personne en fait soit allongée sur le dos, avec les jambes soulevées et écartées, la personne est allongée sur le côté, jambes serrées.
Tout à fait, c'est une position plus confortable et plus pudique pour la patiente. D'ailleurs, en Angleterre, on examine depuis très longtemps dans cette position pour tous les gestes gynécologiques. C'est ce qu'on apprend dans la BD. Et cette position a aussi des avantages au niveau, par exemple, moins de déchirures au moment de l'accouchement. C'est très intéressant de l'apprendre dans cette BD.
C'était très intéressant. Il y a plein d'autres manières aussi de collaborer avec les patientes.
Oui, et qui montre aussi que, en fait, c'est peut-être une position qui est un peu plus compliquée pour le médecin, mais c'est plus confortable pour la patiente. Donc finalement, c'est ça qui compte et on n'y pense pas, finalement. Mmh. Donc c'est une BD qui est disponible dans la bibliothèque du planning de Millau. On vous la conseille d'ailleurs, elle est vraiment chouette. Et il y a aussi le livre, du coup le roman du même titre. Celui-là, je crois qu'on l'a pas à la bibliothèque, mais vous le trouvez en librairie. En tout cas, on a parlé de droits et aussi de comment défendre nos droits en consultation médicale. Et à ce propos, on vous propose d'écouter Ariane, qui est médecin généraliste et qui propose un stage d'autodéfense féministe en consultation médicale avec l'association Titane à Valence. C'est une interview qu'elle a donnée à Radio BLV, une radio associative dans la Drôme. Donc merci aussi à cette radio pour nous permettre de diffuser cette interview.
Bonjour Ariane, tu es médecin généraliste et tu proposes avec l'association Titane un stage intitulé « Autodéfense verbale et physique pour femmes et consultation médicale » que tu co-animes avec Nino, qui est formatrice en prévention des violences sexistes et sexuelles. Alors, c'est original et surprenant comme sujet d'associer autodéfense et consultation médicale. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Ce stage, il est né d'une rencontre entre Nino, qui est dans l'association Sista d'autodéfense féministe pour les femmes, et moi, face au constat que le sexisme et le patriarcat traversent la société et que aucun secteur n'est épargné, y compris les secteurs de soins, le pouvoir de prise de décision, de compétence, de prescription, de diagnostic, il est dans les mains du professionnel de santé. Il y a aussi une asymétrie de classe sociale la plupart du temps. La personne qui arrive, elle peut avoir des questions, elle peut se sentir faible, elle peut avoir des douleurs, et alors que le professionnel, il va bien, il est en capacité de prendre des bonnes décisions qui ne sont pas altérées par son état de santé.
Oui, ça me fait penser un peu à la relation avec un avocat. On a peur, on ne se sent pas forcément à l'aise pour discuter et un petit peu inférieur, on va dire.
Tout à fait.
Du coup, j'imagine bien que ce stage, ça consiste pas à former les gens à la médecine. Et pourquoi on parle d'autodéfense ? Les médecins nous tapent pas dessus tout de même.
L'idée, ce n'est pas de gagner en connaissances médicales, et c'est de gagner en connaissances et en compétences sur ses droits. C'est-à-dire ses droits en tant que patiente, en tant qu'usagère. Qu'est-ce qui existe en fait dans le code de santé publique pour protéger et légiférer cet endroit ? Et qui permet que le système de soins garantisse une équité dans les soins. Il y a aussi la base du stage, c'est quand même un stage d'autodéfense. C'est-à-dire, face à une situation où on peut perdre ses moyens, c'est comment on peut se sentir légitime de se positionner, sentir ses limites, les nommer, se faire respecter, avoir des objectifs. Il y a un phénomène qui s'appelle la littératie en santé, qui est le fait qu'une personne acquiert des connaissances et des compétences sur son état de santé, le système de santé, le fonctionnement du système de santé, et que ces connaissances vont l'aider à améliorer sa santé avec plus d'efficience, d'efficacité. Et en fait, ça, on s'en rend bien compte quand on consulte en médecine générale, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le système, comme par exemple une jeune personne de 18 ans qui a été obligée de consulter un gynécologue sous la pression de sa famille parce qu'on lui a dit qu'il était temps, alors qu'elle n'a aucun problème de santé. Elle arrive, en fait, elle est novice sur le système de soins et elle va découvrir au contact de la réalité seule, elle va découvrir des choses qu'elle ne connaît pas, qui peuvent bien se passer, mais qui malheureusement se passent pas toujours bien. Et les mobilisations des citoyennes et usagères de soins ont quand même permis de mettre en évidence que les violences gynécologiques et obstétricales et médicales existent. Et il y a même eu un rapport en 2018 fait par le Haut Conseil de l'égalité entre femmes et hommes sur les actes de violence sexiste et sexuelle à l'intérieur des soins, qui amène beaucoup d'éléments permettant d'affirmer que ces faits ont des conséquences importantes pour la santé des personnes et aussi qu'elles peuvent amener à renoncer à des soins. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vécu une consultation médicale qui s'est mal passée, soit parce qu'on n'a pas, notre nom n'a pas été respecté, soit parce qu'on a été pesé alors qu'on ne le souhaitait pas, soit parce qu'on a été dénudé alors qu'on ne le souhaitait pas, soit parce qu'on a eu une sonde échographique mise dans le vagin sans qu'on y ait consenti et qui font que, en fait, on n'a pas envie de retourner chez le médecin ou chez le gynécologue ou chez la sage-femme pour, par exemple, faire son frottis à partir de 25 ans ou pour même une question d'infection sexuellement transmissible. Donc, tout ça, ça a des conséquences pour la personne, sur l'image de son corps, sur la manière dont elle va avoir envie de prendre soin d'elle, mais ça a aussi des conséquences de santé publique.
Oui, j'entends que finalement, ce stage, c'est un moyen de... C'est une œuvre de santé publique puisque c'est un moyen de permettre à des femmes qui auraient été mal prises en charge. Dans votre document de présentation, vous parlez de jugement, de réprimande, de moquerie, parfois d'insultes ou même de menaces, d'humiliation, enfin, d'indifférence face aux demandes, aux plaintes. Et j'ai l'impression que ça permet donc d'améliorer la santé publique dans ce que tu dis, en permettant aux femmes d'œuvrer pour elles-mêmes pour obtenir des soins qui les prennent vraiment en compte. Est-ce que ça va de le dire comme ça?
Oui, je pense que ça résume bien. En fait, les soins, ça reste un espace qui n'est pas très confortable pour les gens, dans la vie des personnes. Et où des fois, il se passe des choses difficiles à vivre. À la fois parce qu'on ne va pas bien, à la fois parce qu'on a des annonces désagréables, à la fois parce que des fois, on est en conflit avec la personne qu'on consulte et de laquelle on doit quand même obtenir des soins et on doit quand même avancer dans la situation. Et des fois, c'est très harmonieux. On se sent comprise, on arrive à se positionner. On a des expériences réparatrices. Donc, il faut pour ça arriver à créer une relation de confiance et aussi à se positionner dans la relation.
Je reviens sur le contenu des stages. On n'a pas finalement parlé de la partie autodéfense, puisqu'a priori, on n'a pas à se battre contre le médecin, mais j'imagine que parfois, et on le sait avec les mouvements féministes, qu'il y a aussi des... agressions sexuelles de la part de médecins ou de gynécologues. J'ai pas de chiffres pour pouvoir dire que c'est massif ou pas massif, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça peut arriver. Alors, quand on dit agression sexuelle, c'est pas forcément un viol avec violence au sein du cabinet, mais ça peut être des attouchements, des effleurements, des demandes de se mettre nu qui mettent mal à l'aise. En quoi consiste la partie autodéfense dont je comprends d'après ce que tu dis que c'est Nino qui l'anime et on a parlé d'autodéfense verbale et physique. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que ça signifie? Est-ce que c'est comme un cours de Krav Maga ou...
Du coup, c'est vrai que ce mot, il peut avoir un imaginaire de autodéfense de type art martial. Donc là, on n'est pas là-dessus. Hein. On est plutôt sur des techniques d'abord verbales puisque ça se situe dans la relation. Donc, en fait, on a beaucoup, en tant que, quand on est assigné femme à la naissance, au cours du développement de sa vie, on acquiert des compétences, même sans le savoir, face à des situations, pour désamorcer des situations où on peut sentir que le pouvoir sur notre vie va nous échapper un petit peu, pour, par exemple, quand on amène sa voiture chez le réparateur, ou quand on est dans un bar, au comptoir à 18h et que y a quelqu'un qui nous accoste. Voilà, on est habitué en fait à négocier des choses. Donc il y a des endroits où on a l'impression que de toute façon les gens vont être gentils. Et c'est un peu comment on peut se représenter la consultation médicale. Ce qui peut être intéressant déjà, c'est de garder en tête que, comme dans un repas de famille à Noël, la consultation médicale peut être un endroit où il y a du rapport de force, comme quand on est à un bar et qu'on va se faire accoster par quelqu'un, par exemple. Donc, c'est d'abord garder ses réflexes, les développer, savoir identifier des situations, savoir aussi identifier ce qu'on ressent, c'est-à-dire est-ce que là, je suis d'accord avec ce qui se passe ? Est-ce que moi, je veux aller vers cette direction ? Ensuite, alors c'est des stages qui se font en groupe, et ça a aussi un intérêt, en fait, de se réapproprier ces choses qui sont culturelles, c'est-à-dire on ne se fait pas dépasser dans une relation parce qu'on est une personne faible. On se fait dépasser dans une relation parce que les rapports sociaux sont construits comme ça. On a une marge sur ces rapports sociaux. On a une marge de pouvoir, d'empouvoirment. Et c'est là-dessus qu'on cherche à travailler. Donc ça, c'est le principal des acquisitions. Après, dans certaines situations où on se sent bloqué, physiquement, on se sent contrainte, on se sent nié dans sa douleur, on peut mettre en place des techniques qui permettent de se sortir du danger. Et ça, ça fait aussi partie des questions de prévention sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, ça n'est pas de l'art martial, ça n'est pas un endroit de combat, c'est un endroit de relation. Et du coup, c'est un endroit de s'approprier une part de relation dans laquelle on est légitime et dans laquelle le fait qu'on prenne notre place va améliorer les choses, à la fois pour soi et pour la personne en face, pour le professionnel en face.
Alors, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça dure, quelles sont les dates, le prix et comment on fait pour s'inscrire?
Alors, c'est un stage qui dure 2 jours. Les prochaines dates à Valence, donc c'est le 17 et le 18 février 2024. Le tarif, c'est un tarif indicatif proposé par l'association Titane au moment de l'inscription et qui se fait en fonction des revenus. Si vous souhaitez vous inscrire, vous le faites par mail à l'adresse suivante. Donc, c'est stage.titane@gmail.com.
D'accord, je te remercie beaucoup, Ariane, et merci d'avoir pris le temps dans ton planning de médecin généraliste que j'imagine bien rempli.
Eh bien, avec plaisir.
C'était l'interview de Ariane, médecin généraliste. Donc, comme vous avez pu l'entendre, elle propose un stage d'autodéfense féministe en consultation médicale avec l'association qu'elles ont créée Titane avec un S à Valence le 17 et 18 février 2024. Voilà, voilà, merci à elle.
Oui, et on arrive avec cette interview à la fin de cette émission. Donc, merci à toi aussi, Maggie.
Waouh, déjà.
Et oui, c'est passé vite.
Ça passe vite. Il y avait beaucoup de choses à dire.
Et oui, il y en a encore davantage. Dans tous les cas, voilà, merci aux personnes qui ont participé, qui ont pris le temps de discuter avec nous de ce sujet. Donc, Daniela Abadi, qui a été sage-femme et qui a écrit une conférence « Corps en colère », conférence gesticulée. Merci encore une fois à Ariane et merci beaucoup à Hugo à la technique aujourd'hui. On a cité quelques ressources dans cette émission, donc je vous les rappelle si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, tout en sachant que c'est un sujet sensible, qu'il peut y avoir des témoignages un peu durs à entendre. Il y a le documentaire de Nina Faure disponible sur YouTube, « Paye pas ton gynéco ». Il y a aussi des podcasts de Charlotte Bien-Aimée. On vous a fait écouter un extrait de Un podcast à soi de l'épisode 6 intitulé Le gynécologue et la sorcière que vous pouvez écouter en entier sur le site d'Arte Radio ou sur vos plateformes de podcasts préférées. Et ensuite, il y a aussi, toujours de Charlotte Bien-Aimée, 2 épisodes des Pieds sur Terre sur France Culture qui s'intitule Accoucher dans la violence. Pour finir, on vous a parlé aussi du livre Le cœur de femme de Martin Winkler et de la BD, toujours du même titre, tirée de ce roman qui a été écrite par Aude Mermillio et qui est dispo à la bibliothèque du planning à Millau. Voilà, voilà.
Oui, c'est ça, le planning familial de Millau. J'ai aussi 2 numéros à vous donner si vous êtes victime de violences de toute forme, y compris en consultation médicale. C'est le 3919 qui
est anonyme et gratuit. Et vous avez aussi un autre numéro national du planning familial, c'est le 0800 08 11 11, qui est aussi à votre écoute. Voilà.
Oui, merci Maggie pour ce rappel. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Celle-ci est diffusée à nouveau vendredi à 19h et elle est disponible aussi en podcast sur radiolarzac.org. Voilà.
Merci. Merci à votre écoute. À bientôt.
Ciao.